Chasseurs d'horizons. Émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective. Des chercheurs nous racontent et nous font partager leur passion de connaître.
Je suis en compagnie de Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, chercheur en intelligence artificielle et spécialiste de l'éthique de la société de l'information pour le livre qu'il publie aux éditions Le Pommier et qui s'intitule « Voir et pouvoir qui nous surveille ». Dans cette émission, notre volonté est d'aborder quatre grandes thématiques qui sont la vulgarisation de la science, les technologies de l'information et de la communication, la prospective et les rapports entre la science et la société. Ce livre se situe un peu à la conjonction de ces domaines puisqu'il propose une réflexion sur les frontières entre espace privé et espace public au regard de l'évolution considérable des technologies de l'information. C'est donc le fonctionnement et même les fondements de la société qui sont potentiellement remis en question par cette révolution technologique.
Tout à fait. On peut dire effectivement qu'on rentre dans un monde qui est nouveau. Il est nouveau dans le sens que il n'est pas le monde que non seulement nos pères ont connu, ça c'est clair, mais il n'est même pas celui que nous-mêmes nous avons connu lorsque nous étions jeunes, et même sans être très très âgés, on éprouve ce sentiment de changement. Que l'on se souvienne, l'informatique par exemple, dans les années 80, tout au début n'était pas très développée. Certes, il y avait des ordinateurs, mais les micro-ordinateurs sont apparus relativement tardivement. Le premier Macintosh, en 84, c'est ce qui a popularisé l'usage de la souris et la métaphore du bureau, même si ça existait auparavant, c'était très peu connu du grand public. Quant au web, il n'arrive qu'au milieu des années 90. Et avant, Internet existe, mais avec des contraintes qui sont extrêmement fortes. Et donc, on rentre effectivement dans un monde qui est un monde différent de celui qu'on a connu. Et donc, je crois que on peut le qualifier, disons, de nouveau monde. Pour ça, j'ai repris le titre d'un ouvrage de Georges Balandier, qui est un anthropologue, et qui dit la planète a été totalement explorée. Et donc, on ne peut plus rencontrer de peuplade qui n'ait jamais été en contact avec la civilisation. Donc il dit, certes c'est intéressant de reprendre toutes les données anthropologiques que nous avons pu accumuler, mais aujourd'hui le rôle de l'anthropologue c'est aussi de regarder qu'est-ce que c'est que le monde qui est autour de nous. Et ce monde, il dit, il est doublement neuf. Il est neuf parce qu'il est différent de celui que nous connaissions auparavant. Et puis il est neuf parce qu'il advient. Et c'est pour ça qu'il redouble le nouveau. Il dit c'est un nouveau monde au sens où l'Amérique était un nouveau monde pour les habitants du vieux continent. Et c'est en même temps, c'est un nouveau monde. Et je crois qu'il en va de même avec les technologies. D'ailleurs, c'est ce que dit Georges Balandier. Il dit il y a deux domaines importants qui sont d'un côté les biotechnologies, où la question de la reproduction, de la vie, etc., de la manipulation du vivant, sont différentes de ce qu'elles pouvaient être auparavant. Et puis le monde des communications. Et bien sûr, c'est plus celui-là qui m'intéresse aujourd'hui, encore qu'il y a des liens entre les deux.
Le livre met en évidence deux logiques sociales antagoniques qui coexistent et qui sont la logique de surveillance et ce que vous nommez la logique de sous-veillance que nous évoquerons après. La logique de surveillance nous est familière et a été particulièrement bien décrite dans le livre de George Orwell, 1984. Un dispositif imaginé par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle représente idéalement la logique de surveillance. Il s'agit du panopticon.
Oui, alors cette notion introduite par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle a joué un rôle extrêmement important. Il faut rappeler donc que Jeremy Bentham est un philosophe utilitariste anglais et il va imaginer une architecture pour systématiser cette notion de surveillance dans des institutions qui seront les institutions de la modernité. La prison, nous sommes accoutumés, mais n'oublions pas qu'il existait des cachots, qu'on enfermait des gens. Mais d'abord, on enfermait relativement peu, puisqu'auparavant, les gens étaient torturés, éventuellement, ils étaient pendus, et il n'y avait pas d'institution pénitentiaire. Ça va se systématiser au cours du 19e siècle, à la fin du 18e. Et puis d'autres institutions, comme l'hôpital, comme l'usine, comme l'asile par exemple, qui vont apparaître avec ce monde neuf. Et ce que pense Jeremy Bentham, et ça a été considéré comme vraiment novateur, c'est qu'on est dans un monde qui va être un monde de droit, un monde de loi. Et donc, le pouvoir ne s'impose plus de façon arbitraire sur les hommes, mais il va s'imposer froidement par l'intermédiaire d'un certain nombre de règles qui ont été communément acceptées. Et bien sûr, pour ça, il imagine un dispositif qui va permettre de vérifier que les gens obéissent bien aux différentes lois. Et le panopticon est tout à fait emblématique de cela. Hein, donc cette architecture de surveillance donc, qui est constituée de façon assez simple, il y a une tour centrale dans laquelle il va y avoir des gardiens qui seront à l'abri du regard des prisonniers. Puis les prisonniers seront disposés en anneaux autour de cette tour centrale dans des cellules qui sont transparentes. Ce qui fait que les gardiens pourront voir tout ce que font les prisonniers. Rien ne pourra être caché dans les cellules. Et les prisonniers eux-mêmes auront une vue sur la tour centrale où sont les gardiens, mais ils ne verront pas les gardiens eux-mêmes et ils ne communiqueront pas avec les autres prisonniers afin de ne pas s'organiser et grandir des complots hein, ou différentes stratégies. Alors, c'est pas sûr, c'est une idée un peu terrifiante hein, que l'on a là, mais il faut savoir que ça a eu beaucoup d'influence. Hein. En France, par exemple, hein, la prison de la Petite Roquette a été construite par Hippolyte Lebas au début du 19e siècle sur le modèle de panopticon. Et puis, donc, comme le dit Bentham, beaucoup d'autres institutions sont organisées de la même manière. C'est-à-dire qu'à la fois, les gardiens dans la tour centrale sont censés surveiller, mais ils sont aussi censés étudier. C'est-à-dire que dans un hôpital, par exemple, on peut avoir une fonction scientifique à cette observation. Donc, il y a un lien hein, entre cette surveillance et la science qui va développer. Donc, c'est intéressant parce que donc, c'était réservé à un certain nombre d'institutions qui ont été celles de la modernité, comme je l'ai dit. Mais ensuite, ben, ça a pu, au début du XXe siècle, avec les totalitarismes, être étendu à l'ensemble de la société. Du moins, c'était un tout petit peu ce qu'on souhaitait faire un certain nombre de gens, savoir hein, ce que chacun pensait, faisait, etc. Hein, et ce qu'on a pu voir hein, jusque avec la Stasi en Allemagne de l'Est hein, ou en Union soviétique. Et effectivement, ce qu'a très bien dépeint Rouelle, dans son roman de 1984, hein, où il imagine ce que serait hein, une société de surveillance totale avec une caste de surveillants qui sont un peu obscurs, hein, qui sont ces Big Brother hein, dont on parle hein, et qu'on ne voit pas hein, et qui sont présents en permanence hein, à tout moment, hein, un peu partout. Et bien sûr, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ce 1984, donc qui est le titre du roman mais qui est aussi une date, est devant nous ou derrière nous ? C'est-à-dire que d'un côté, on peut se dire ah ben, c'est le monde stalinien et puis c'est une date qui est antérieure, c'est 1984, c'est-à-dire que c'était une projection des années 50 dans un futur qui est déjà dépassé hein, et en même temps, on voit que les technologies de l'information permettent une prise en continu d'informations, un traçage de toutes nos activités de tous les jours, avec des choses assez effrayantes. Il faut savoir que chaque fois qu'on allume notre téléphone portable, hein, même si on n'appelle pas, hein, le fait qu'il soit ouvert fait qu'on sait où nous sommes. Hein. De même si on utilise son passe Navigo, on sait quel voyage on a fait. Hein, pour ceux qui connaissent la région parisienne, hein, ce sont les petites cartes de transport à Paris. Je suppose qu'il y a ça un peu partout en province, avec les puces RFID. Hein. Lorsqu'on paye avec une carte bleue, on sait ce que vous avez acheté. Lorsqu'on va chez un médecin avec la carte vitale, hein, on sait non pas quelle maladie vous avez, mais on sait quel médecin vous êtes allé visiter et quels sont les médicaments qu'il vous a prescrits. Hein. Et donc, bien sûr, les inférences ne sont pas si difficiles à faire. Donc, on est dans un monde hein, qui est dans lequel on est de plus en plus traqué. Et chose curieuse, hein, c'est que cette traque, elle est à la fois faite à notre insu, mais bah, il existe des moments où elle va être faite aussi pour nous, parce qu'on est consentant d'une certaine façon. Et donc c'est là hein, où on passe de cette notion de surveillance à une autre notion qui me semble intéressante parce qu'elle est tout à fait révélatrice d'une tendance actuelle qui est la notion de surveillance.
La notion de surveillance donc implique une notion de volonté, de choix. Et vous dites que certaines expériences un peu extrêmes illustrent ce concept de transparence choisie, comme celle de Jennifer Ringley ou l'œil robinet de Steve Mann. Pouvez-vous nous décrire ces expériences ?
Oui, alors peut-être rappelons un tout petit peu la notion de surveillance. Donc c'est ce fameux Steve Mann qui en est à l'origine. C'est un technologue américain qui a fait sa thèse au MIT, qui est professeur au Canada aujourd'hui, et il travaille sur ce que l'on appelle l'informatique vestimentaire. De quoi il s'agit ? De mettre, avec les technologies contemporaines, des myriades de dispositifs, qui peuvent être soit des ordinateurs, soit des capteurs, sur l'individu. Ça peut être sur ses habits, ça peut être sur ses lunettes, ça peut être sur ses yeux, etc. Et avec ça, il sera capable de prendre de l'information en permanence, et il sera capable aussi de partager, de voir de l'information qui vient des autres. Cette information, il peut la donner à d'autres, il peut la mettre en libre accès sur la toile, ou il peut la stocker pour constituer des archives de sa vie individuelle. Avec l'idée, peut-être un peu naïve, hein, et c'est de ça dont il faut discuter, que cette transparence sera telle que plus personne ne pourra faire le mal, puisque tout le monde pourra expliquer exactement ce qui s'est passé. Hein. Et donc, il n'y aura aucun moyen de dissimuler quoi que ce soit, et donc ce sera pour le bien de l'humanité. Donc, pourquoi il a introduit le concept de surveillance ? Parce qu'il a dit, on passe d'une société dans laquelle ces technologies donnent à l'autorité, c'est-à-dire à celui qui est au-dessus, à celui qui est sûr, la possibilité de regarder, de veiller. Donc on passe de ça à un moment donné où tout le monde peut prendre l'information, donc c'est pas seulement les gens qui ont du pouvoir. C'est-à-dire qu'à une époque, une caméra c'était cher, un micro c'était pas évident, ensuite le diffuser, le mettre sur la presse ou sur une radio, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est très simple, hein. Il suffit d'avoir un petit site web, et avec une webcam qui coûte extrêmement peu cher, hein, ou un téléphone portable qui est à la disposition de tout le monde, on peut faire partager ces images, ses expériences personnelles à l'ensemble de la planète. Alors on a des exemples, hein, qui sont quelquefois assez troublants, hein, ou assez positifs, hein, d'images qui nous sont parvenues, hein, de dictatures, hein, où les actions, hein, ne pouvaient pas être cachées. On a vu ça en Iran par exemple, hein, on a vu ça dernièrement dans les révoltes des pays arabes, hein. Alors ça ne veut pas dire que tous les pays parviennent nécessairement à une démocratie idéale telle qu'on la conçoit en Occident, hein, mais ça veut dire que il n'y a pas d'impunité et qu'on sait au moins ce qui se passe, alors que nous étions dans les sociétés totalitaires avec une coupure. On n'a pas su en Europe et en France en particulier ce qui s'est passé en Union soviétique pendant un certain temps. On n'avait pas su ce qui s'est passé au Cambodge. On a mis très très longtemps pour le savoir avec le régime des Khmers rouges. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus improbable de telles choses. Donc de ce point de vue-là, c'est positif.
Par contre, au quotidien, cette mise sous veille volontaire, hein, c'est-à-dire le fait de rendre publique sa vie privée, se manifeste particulièrement dans la télé-réalité et avec les réseaux sociaux. Et vous dites que ce renversement correspond à une évolution de l'économie contemporaine où on rémunère celui qui attire les regards, et on peut donc parler d'une une société de l'attention, hein, donc qui est aussi symbolisée par la publicité.
Oui, tout à fait, parce que donc, ce qui se passe, c'est que donc, on avait la logique de surveillance où celui qui avait le pouvoir utilisait l'information à son propre profit. Et le fait d'avoir de l'information lui donnait plus de pouvoir. Et puis, on arrive dans une logique un peu différente où tout le monde accède à toute l'information. Et donc, à un moment donné, on ne voit plus rien parce qu'il y a trop de choses. Et bien sûr, celui qui a du succès, ce n'est pas celui qui voit, c'est celui qui arrive à se mettre en valeur, à attirer les regards vers lui. Bien sûr, attirer les regards de façon positive, hein, il faut faire bien attention. Mais pour ça, on va développer un certain nombre de stratégies. Et donc, effectivement, on passe dans une logique qui est une logique différente, où celui qui a le pouvoir, c'est celui qui attire les regards. Et bien sûr, pour preuve, on voit bien qu'il y a une économie qui est nouvelle, qu'on peut qualifier d'économie de l'attention, où l'important pour gagner de l'argent, ce n'est pas tant les biens qu'on vend, ce n'est pas tant le produit. Et d'ailleurs, on vend beaucoup de choses gratuites aujourd'hui. Hein, et c'est d'utiliser les regards qui vont venir se porter sur vous au moment où vous allez distribuer de la gratuité, c'est ces regards qui vont rapporter. Pensons à Google, par exemple. Lorsque vous tapez une requête sur Google, qui est le principal service que rend Google, vous ne payez pas, c'est formidable, c'est gratuit. Mais Le fait que vous alliez sur Google, eh bien, ça va rapporter à Google. Et on peut voir ça avec les réseaux sociaux, enfin avec toutes ces industries nouvelles qui sont nées justement avec Internet, hein, avec ce qu'on a appelé le Web 2.0. Hein, et c'est donc le regard qui est rémunérateur. Et on peut généraliser ça à beaucoup de domaines. En politique, par exemple, bien sûr, ce que fait un homme politique aujourd'hui, c'est se mettre en valeur. Alors, bien sûr, de façon mesurée, de façon plus ou moins orchestrée, hein, pour que l'on le voit dans des situations favorables. Mais bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque pendant longtemps, les gens qui étaient au pouvoir, au contraire, hein, essayaient de se cacher pour avoir un certain prestige. Hein. Aujourd'hui, ben, ils vont se montrer hein, dans la plupart des activités, hein, pour envahir complètement hein, tout l'espace public, hein, que leurs personnes privées envahissent l'espace public. Et donc on discute moins de politique et que, bien sûr, on parle plus de leurs personnes.
Alors cette potentielle transparence absolue vous amène à imaginer un dispositif que vous nommez par analogie avec le panopticon, le catopticon, et dont l'architecture renvoie à une représentation idéale de la réalité sociale qui résulte de ce déploiement généralisé des médias électroniques actuels.
Tout à fait. Le panopticon, c'est très intéressant parce que c'est une figure qui correspond à la structuration de la société à partir effectivement de cet avènement de l'état de droit. Donc une hiérarchie sociale qui est fondée sur l'autorité et les gens les plus puissants ayant l'œil, le regard, l'information sur le reste de la société. Or aujourd'hui, on sent bien que ce modèle est mis en défaut. Il est mis en défaut pour deux raisons. D'abord parce que l'information en elle-même ne donne plus en tant que telle le pouvoir, puisque beaucoup de gens disposent de l'information. Et comme on l'a dit, c'est d'avoir l'information juste qui importe, et éventuellement de se montrer, hein, c'est-à-dire de se mettre en valeur. Et puis deuxièmement, parce qu'on est dans des sociétés beaucoup moins hiérarchisées, hein, où, en tout cas, il reste toujours des pouvoirs, bien sûr. Mais il n'y a plus cette notion d'autorité telle qu'elle pouvait exister auparavant. Nous avons une symétrisation des rôles, par exemple. Dans un professeur, maintenant on parle plutôt d'enseignant et d'enseigné. Hein, un médecin, avant c'était un docteur, hein, il avait une relation d'autorité. De plus en plus, hein, on parle d'un soignant et d'un soigné. D'ailleurs, très souvent, hein, les malades vont sur Internet, se documentent sur leur maladie, et en savent plus s'ils ont une maladie chronique un tout petit peu rare que leur médecin. Et leur médecin joue un rôle, bien sûr, hein, mais cette symétrisation des rapports est quelque chose de tout à fait naturel. Alors pour essayer de traduire ça, justement, j'ai repris l'architecture du panopticon et je me suis dit qu'est-ce que ce serait qu'une architecture de surveillance, c'est-à-dire plus de surveillance, mais de surveillance. Et bien sûr, on peut, de façon symbolique, hein, la représenter en reprenant cette idée de tour centrale, en la vidant de ses occupants, puisqu'il n'y a plus de dissymétrie, hein, il n'y a plus de hiérarchie, et en remplaçant cette tour par un certain nombre de miroirs. Et à ce moment-là, chaque prisonnier de sa cellule voit, par le jeu des miroirs qui se trouvent situés sur la tour, les occupants de toutes les autres cellules. Et donc, chacun communique avec tout le monde. Donc, on a effectivement cette société contemporaine. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est que nos capacités cognitives sont limitées. Et donc, nous ne pouvons pas avoir tout le monde. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous pouvons avoir 10, 50, 100 amis. Et déjà, avec 100 amis, on a du mal à s'occuper d'eux. Mais bon, certains ont 500 amis. Hein, mais vous imaginez, aujourd'hui, hein, il y a environ 1,5 milliard de gens qui se connectent régulièrement sur Internet. Pourriez-vous avoir raisonnablement 1,5 milliard d'amis? Ben non, parce que vous ne pourriez pas les voir. Et donc, vous allez quand même vous intéresser à un certain nombre de choses. Ben, ce qui va se produire, c'est que des individus, des groupes sociaux, des organisations vont se débrouiller pour ressortir dans cette masse immense et pour attirer les regards. Et donc, ce qui est intéressant avec cette architecture nouvelle, alors, je l'ai appelé le catopticon, hein, parce que la catoptrique, c'est la science des miroirs. Et sur la tour centrale, il y a des miroirs. Et donc, ce qui est intéressant avec cette architecture du catopticon, c'est qu'il donne une figure idéale et en même temps, il montre bien les limites de cet idéal de communication totale de tout le monde avec tout le monde. Et à partir de ça, donc, on peut voir de façon négative quelles sont les stratégies que l'on doit déployer pour vivre à l'intérieur de cet univers qui est tout à fait nouveau. Alors ces stratégies, bien sûr, elles peuvent passer par ce qu'on appelle les moteurs de recherche avec les techniques de référencement, hein, le fait qu'on va les biaiser, hein, elles peuvent passer par toutes sortes de coups d'éclat extraordinaires. Hein, et je crois que ça, c'est vraiment hein, un monde complètement nouveau se fait jour. Pour le dire autrement, dans la logique du panopticon, un pouvoir qui voulait conserver son autorité voulait cacher de l'information qui lui déplaisait. Et pour ça, il procédait à du caviardage, à du gommage, à du masquage. On se souvient de ces, par exemple, en Union soviétique, on prenait des photos et on gommait les personnages qui étaient en disgrâce. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, parce qu'on ne peut rien oublier sur Internet, même si on nous a expliqué il y a quelques années qu'il y avait un droit à l'oubli, mais rien ne peut être retranché. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, on va noyer l'information, c'est-à-dire qu'on utilise la technique, la stratégie des gens qui voulaient brouiller les images radar en avion. Il va mettre beaucoup de leurres autour. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour brouiller une information qui nous déplaît ? Eh bien, on va rajouter tout un tas d'informations superfétatoires, de ce qu'on appelle le spam, pour essayer de baisser l'intérêt, la plausibilité de l'information.
Et un autre problème se pose, c'est aussi la question de l'identité. Parce que donc, dans ce monde, on s'aperçoit que certaines personnes créent plusieurs avatars, et même au Japon, par exemple, certaines personnes changent de sexe sur Internet.
Oui, tout à fait, parce que, bien sûr, d'abord, on est sur un monde virtuel où on peut être différent. Alors, en même temps, il y a une revendication. Les gens d'aujourd'hui souhaitent se présenter différemment selon leur interlocuteur. Et bien sûr, c'est tout naturel, puisque aujourd'hui, tout est transparent. Et bien sûr, si on se présente, par exemple, à son patron, quand on veut trouver un emploi, ou si on se présente à ses amis, on va pas le faire tout à fait de la même façon. Alors, il y a d'abord tous les jeux possibles avec les identités. Par exemple, oui, ces gens qui s'amusaient à changer de sexe sur Internet. Alors, ça peut être, bien sûr, ça peut être pour des raisons de tendance sexuelle, mais ça peut être pour des raisons complètement différentes. Par exemple, au Japon, c'est des études très intéressantes qui ont été faites de femmes qui changent de sexe, mais bon, qui sont tout à fait hétérosexuelles, mais qui le font pour une autre raison, parce qu'elles peuvent s'exprimer d'une façon différente. Parce que dans une société comme ça, où la différence entre les sexes est très marquée, il y a une liberté de parole qu'elles peuvent obtenir. Et il y a des hommes qui changent de sexe, là encore, pas seulement parce que ce sont des invertis, mais ils changent de sexe pour d'autres raisons. Ils changent de sexe parce qu'ils veulent discuter de certains sujet. Par exemple, le théâtre Kabuki est un théâtre dont les femmes surtout parlent au Japon. Et il y a des hommes qui changent de sexe pour parler du théâtre Kabuki, et donc de façon imaginaire. Donc tout ça, bien sûr, étant l'individu, et bien sûr, en même temps, peut être responsable de tout un tas de dérives, parce que si les identités ne sont pas fixes, la notion même d'identité peut poser un certain nombre de problèmes.
Alors, une discipline est même née pour permettre de gérer ces identités, qui s'appelle la biométrie.
Alors, la biométrie, c'est autre chose, parce que vous pouvez vous présenter avec des identités différentes, ce qui fait que les gens ne sauront qu'une partie de ce que vous êtes. Dans le cas de gens qui changent de sexe, on ment carrément. Mais sinon, on peut très bien dire, voilà, pour quelqu'un, je suis simplement un individu, un citoyen. Et puis pour quelqu'un d'autre, je serai un individu qui a telle profession. Et pour quelqu'un d'autre, je suis un individu qui s'intéresse à la philatélie ou à telle chose. Donc ça, ce sont des identités qui sont différentes en fonction des interlocuteurs que nous avons. Parce qu'on ne veut pas avoir tout de soi-même, mais des choses différentes de soi-même. Et par exemple, si vous présenter à votre médecin, vous allez vous présenter d'une certaine façon. Maintenant, si vous vous présentez à votre futur employeur, vous n'allez pas tout dire sur votre santé. De même, si vous vous présentez parmi les médecins au médecin de votre compagnie d'assurance, vous n'allez peut-être pas dire la même chose que ce que vous dites à votre médecin personnel. Et ça, c'est la gestion des identités. La question de la biométrie est différente, c'est l'authentification. Donc, comment faire pour s'assurer qu'une personne est bien celle qu'on a en face de soi. Alors, il y a plusieurs techniques qui ont été envisagées, et l'une des techniques, c'est ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire prendre des marqueurs biologiques. Par exemple, on pourrait regarder l'iris. On sait que les iris sont différents, et donc, si vous avez, au lieu de taper votre code, par exemple, sur le guichet de carte bancaire, vous pourriez avoir votre iris, et puis vous pourriez avoir la voix, vous pourriez avoir les empreintes digitales, etc. Et donc, bien sûr, beaucoup de gens ont pensé que ces choses-là étaient une bonne façon de régler les problèmes de vol d'identité. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, parce que vous pourriez très bien imaginer que quelqu'un vous vole vos empreintes digitales, ou que, au contraire, hein, quelqu'un prenne votre iris et puis mette une lentille de contact avec votre iris. Et donc, on peut effectivement avoir de nouvelles dérives, hein, de nouvelles formes de délinquance, hein, qui utilisent différentes techniques. Donc, ça n'est pas une technique absolument assurée, malheureusement.
Au-delà des identités multiples et des avatars individuels, nous allons être amenés de plus en plus à côtoyer dans l'infosphère, hein, ce qu'on appelle l'infosphère, donc le domaine de l'information, des entités entièrement artificielles que sont les robots ou les automates sous diverses formes, ou même des virus informatiques. Alors on désigne tous ces organismes informationnels sous le terme d'Orin, et donc qui représentent l'ensemble des êtres réels ou virtuels qui peuplent cette infosphère. Une question assez déconcertante à propos des Orins anime les philosophes et les spécialistes des sciences cognitives. Ces organismes informationnels ont-ils une âme? Peut-il considérer qu'ils sont dotés d'une conscience? Une question assez étonnante.
Oui, tout à fait, puisque nous allons vivre, hein, dans un monde double, hein, matériel, hein, qui, lui, ne change pas, hein. D'ailleurs, chose étonnante, si on regarde bien avec l'évolution des techniques informatiques, la forme des objets, c'est relativement peu modifié. C'est-à-dire qu'on peut établir une loi, c'est-à-dire que pendant longtemps, la technologie évoluant, le monde extérieur se transformait. La forme du mobilier, des immeubles, etc., changeait. Et puis, à partir, disons, des années 70 à peu près, hein, on a l'impression qu'il y a une forme extérieure qui reste à peu près identique. Pourtant, le monde s'est beaucoup modifié. Et ce qui se produit, c'est que on va avoir des objets dont les fonctionnalités vont être différentes, qui vont intégrer des micro-ordinateurs, et donc il va avoir une intelligence ajoutée qui va être considérable. Donc on peut dire que le monde qui vient depuis effectivement la fin des années 70, début des années 80, avec l'émergence et la multiplication des ordinateurs et surtout des micro-ordinateurs et leurs insertions dans les objets, ça va être un monde invisible. Et ce monde invisible, il va permettre alors à la fois donc à communiquer entre les individus, mais aussi avoir ce qu'on appelle des agents intelligents, c'est-à-dire des êtres virtuels, hein, qui vont soit être les avatars, c'est-à-dire la reproduction d'un individu, soit être des entités tout à fait autonomes. Alors pour essayer de représenter ce qu'est cet univers, un philosophe qui s'appelle Luciano Floridi a introduit la notion en anglais informational organism, d'organisme informationnel, hein, qui vont avoir chacun une personnalité. Alors les individus sont des organismes informationnels, hein, nous sommes en contact avec des gens, hein, pendant des années, hein, par email, hein, on ne les connaît pas vraiment, mais bon, en même temps on a une certaine idée de ce qu'ils sont. Et de même, on peut échanger avec des êtres purement virtuels qui sont des machines. Alors pour le traduire en français, j'ai utilisé un terme, hein, donc ce sont des organismes informationnels, donc au lieu d'une forme, une formation organisme, ça donne Orin. Et Orin me semble particulièrement bien choisi en français parce que qu'est-ce que c'est qu'un Orin pour les gens qui ont fait un peu de bateau, vous le savez peut-être, hein, c'est le bout, hein, le cordage qui relie une bouée avec l'ancre, hein, sur le sol. Et effectivement, ces Orins, hein, c'est un peu ce qui va être le point de contact entre nous et puis cet univers informationnel, hein, et donc c'est particulièrement évocateur, hein, me semble-t-il. Alors bien sûr, ces Orins, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir une personnalité, hein, ils vont agir d'une certaine façon. Et donc on peut se demander, qu'est-ce qui les meut, hein, qu'est-ce qui les anime, hein. Et dans la tradition, ce qui les anime, c'est une âme, hein, et donc, alors bien sûr, c'est pas une âme au sens chrétien, c'est pas une âme spirituelle, c'est simplement une âme au sens d'une conscience. C'est pas n'importe quelle conscience, en tout cas, hein. C'est plutôt ce que les philosophes appellent, hein, une conscience existentielle. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être mus par une conscience, même si on pense raisonnablement qu'ils n'ont pas de perception, ils n'ont pas de conscience phénoménologique, hein. Peut-être qu'ils ressentent de la douleur et du plaisir, mais c'est un plaisir qui est certainement très différent de celui que nous-mêmes ressentons, et nous ne nous prononcerons pas sur ce sujet-là. En revanche, hein, le fait que quand on les regarde d'extérieur, on a l'impression qu'ils sont mus par quelque chose, par une entité, hein, ça c'est tout à fait réel. Et donc ça, bien sûr, c'est une question, hein, qui a beaucoup fait discuter les philosophes pour comprendre ce dont il s'agissait.
Certains ont imaginé reproduire des répliques informationnelles de personnalités. Vous expliquez qu'on vous avait même sollicité pour construire une sorte d'avatar de Paul Valéry à la manière d'un Deep Blue spécialisé, lui, dans les échecs.
Oui, ça c'est une histoire amusante, hein. C'était des médecins, hein, disons, qui était à la fois très connu en France hein, et qui, en même temps, était de grande culture. Et il se réunissait avec la petite fille de Paul Valéry. Et bon, un jour, il m'avait fait venir et donc il m'avait demandé... que je leur ai décrive un peu ce qu'on faisait en intellectuel. Et puis après, il m'avait dit, ben voilà, Paul Valéry se levait tous les matins à 5h et il prenait des notes sur toutes les questions, sur tous les sujets. C'était un esprit très vif, donc on dispose de toute cette quantité d'informations. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible aujourd'hui d'avoir une machine qui nous répond comme si Paul Valéry était vivant ? Alors bon, j'étais un tout petit peu déconcerté par cette question, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit que ce serait peut-être tout à fait amusant hein, de faire ce genre de choses, avoir une espèce de réplique de Paul Valéry. J'avais trouvé quand même à l'époque que c'était peut-être un peu irrévérencieux à l'égard de Paul Valéry, hein, de penser qu'une machine pouvait le reproduire. Et je me suis rendu compte que Paul Valéry lui-même avait imaginé cela. Alors d'une façon un peu curieuse, hein, mais non, pas Linus ou l'architecte, hein, il a pris lui-même, hein, Phèdre hein, et Socrate, hein, donc les protagonistes du fameux dialogue de Platon, et il les a mis sur le rive des morts. Après la mort, hein, il les fait parler. Et ben, c'est un tout petit peu hein, de ça dont il s'agirait, hein, c'est de mettre hein, sur cette rive des morts comme ça hein, les grands auteurs. Hein,
ça se fait un peu en musique, je crois. On peut arriver à générer, par exemple, des solos de jazz à la manière d'un John Coltrane ou en analysant le type de jeu, je crois.
Oui, on peut faire ça, effectivement, hein, en musique. Hein. Mais ça reste extrêmement limité. En tout cas, ce qui est très difficile, c'est de reproduire hein, le caractère créatif hein, de la musique. Mais on peut, hein, et dans le cas de Paul Valéry, c'était un tout petit peu différent. Hein. C'était de prendre l'actualité et puis de regarder des sujets qui se rapprochent de ce dont a pu parler Paul Valéry et ensuite de redonner des textes de Paul Valéry. Donc ça, c'est plus facile. En revanche, s'il s'agissait de faire réécrire Paul Valéry sur l'actualité, là, je crois qu'on aurait vraiment beaucoup plus de mal.
J'étais en compagnie de Jean-Gabriel Ganassia, qui publie aux éditions du Pommier le livre « Voir et pouvoir qui nous surveille ». Vous pourrez retrouver la suite de cet entretien sur notre site www.chasseursdhorizons.fr. Merci, au revoir.
Vous écoutiez Chasseurs d'Horizons, l'émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective présentée par Denis Chataigner. Retrouvez et téléchargez tous nos entretiens sur notre site www.chasseursdhorizons.fr.